Et il est 18h30 déjà à Paris, l'heure du débat du soir avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Alors évidemment, vous avez fait référence à l'Ukraine dans votre décryptage. C'est aujourd'hui le troisième anniversaire de l'invasion russe. On y revient dans le débat du jour pour évoquer cette fois le sort des Européens.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car l'Europe est affaiblie par l'offensive diplomatique de Donald Trump sur l'Ukraine. Le président américain méprise son homologue Volodymyr Zelensky et entend négocier la fin de la guerre directement avec la Russie de Vladimir Poutine en écartant de fait l'Union européenne. D'où notre question ce soir, est-ce que l'Ukraine est devenue l'enjeu de la crédibilité européenne? Comment Bruxelles peut-elle s'imposer à la table des négociations? Que signifierait une paix en Ukraine sans les Européens? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Yves Bertoncini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant au Corps des Mines et à l'ESCP Business School, consultant en affaires européennes. Face à vous, Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, et chercheur associé au Centre de Géopolitique de HEC. Et notre troisième invité, Sylvie Berman, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur en Chine, au Royaume-Uni et en Russie, ancien ambassadeur au Comité politique et de sécurité auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de vous déplacer en studio pour répondre à cette invitation du débat du jour sur RFI. Alors, première question, que vous inspire cette offensive diplomatique, cette réponse diplomatique à une autre offensive, la réponse de l'Union européenne à l'offensive de l'administration Trump? La semaine dernière, il y a eu deux mini-sommets organisés à l'initiative d'Emmanuel Macron, le président français, qui actuellement, Emmanuel Macron, rencontre Donald Trump, le président américain, à la Maison-Blanche. Il y a eu ce lundi un sommet à Kiev en présence de nombreux dirigeants étrangers. Yves Bertoncini, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est en train de répondre aux défis lancés par les États-Unis concernant l'Ukraine?
Je crois, oui, et tristement d'ailleurs, parce qu'on commémore les 3 ans de l'invasion russe de l'Ukraine. Originellement, c'est aux défis poutiniens qu'il s'est agi de répondre. Les Ukrainiens l'ont fait de manière assez énergique, avec le soutien d'abord des Américains, des Britanniques, qui ont vu ça arriver mieux que nous, puis des Européens. 3 ans plus tard, vous le dites vous-même, il faut répondre aux défis américains. Il y a non seulement un lâchage de notre allié théorique américain, mais même un lynchage de Zelensky par Donald Trump. Donc les Européens se battent en ce moment pour être à la table, comme on dit, des négociations américano-russes qui se font au-dessus de notre tête. On peut dire qu'Emmanuel Macron au moins est à la table aujourd'hui puisqu'il rencontre Donald Trump pour essayer de lui faire entendre raison. Et puis surtout, ils sont sur le terrain, les Européens. Voilà, c'est très bien. Ils sont tous à Kiev, enfin la plupart d'entre eux. Ils essayent de dire aux Ukrainiens qu'on va continuer à les soutenir comme depuis 3 ans, même s'il faudrait faire bien plus si les Américains se retirent complètement. Et puis, ils ont adopté aujourd'hui un 16e train de sanctions contre la Russie. Est-ce que ça va suffire? C'est pas certain, mais au moins, je dirais, ils font ce qu'ils peuvent. Ils doivent faire davantage, mais ils sont où ils doivent être, c'est-à-dire aux côtés des Ukrainiens sur le terrain, plutôt que dans d'obscures négociations diplomatiques en Arabie Saoudite entre le pouvoir poutinien et l'administration Trump.
Florent Parmentier, est-ce que l'Europe est en train de montrer qu'elle est incontournable, indispensable dans le dossier ukrainien? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dit en arrivant à Kiev, aujourd'hui nous sommes à Kiev parce que l'Ukraine c'est l'Europe. Et est-ce que cette offensive diplomatique menée par l'UE va dans ce sens-là?
Le test de la crédibilité doit se comprendre de la manière suivante pour les Européens. Soit ils peuvent venir avec un plan de paix qui doit être mieux finalement que celui qui avait été trouvé entre les différents acteurs en mars 2022, à savoir une initiative qu'elle aurait pu prendre depuis 3 ans en réalité. Et c'est un peu ce que dit Donald Trump, en réalité vous n'avez pas trouvé de plan de paix, donc c'est moi qui vais reprendre la main. Soit les acteurs européens doivent se retrouver autour de la manière de gagner un rapport de force, de manière à pouvoir ensuite bloquer la situation et en gros être dans une situation où on se retrouve un peu comme en Corée, c'est-à-dire une forme d'équilibre des puissances qui doit geler une situation qui a peu de chances d'évoluer sur le terrain. C'est un peu les deux alternatives en fait, et test de la crédibilité charge aux dirigeants européens à présent de nous dire dans quelle situation ils veulent nous amener.
Sylvie Berman, il y a un vrai bras de fer qui est lancé entre les États-Unis et l'Union européenne à l'ONU. Il y a ce lundi deux textes qui étaient soumis, qui vont l'être dans les prochaines heures, l'un porté par l'Ukraine et plus de 50 États, projet de résolution qui appelle à mettre fin à la guerre cette année, qui répète les exigences, c'est porter les exigences de l'Ukraine et de l'UE, retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien et arrêt des hostilités menées par la Russie. Et parallèlement à ça, un autre texte concurrent déposée par les États-Unis à l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité. L'objectif, c'est le même, une fin rapide du conflit en Ukraine, mais les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Pas de référence à l'intégrité territoriale du pays. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il faut s'attendre à un bras de fer, notamment à l'ONU ? Parce qu'il y a eu deux positions intéressantes aujourd'hui. La France, bah, qui pourrait utiliser son veto, ce qu'elle n'a pas fait depuis plus de 30 ans, par rapport au texte américain. Washington a prévenu qu'il mettrait son veto à tout amendement à sa résolution de l'ONU. Ça montre à quel point où on en est aujourd'hui dans ce sujet-là.
Oui, tout à fait, mais ce n'est pas du tout surprenant. D'abord, Trump, ça fait des mois qu'il nous dit ce qu'il a l'intention de faire, donc on ne devrait pas être surpris et on ne s'y est pas véritablement préparé. J'ai vu la résolution très courte des Américains avec les Russes. Évidemment, on ne parle pas d'intégrité territoriale parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une incantation. On sait très bien, et d'ailleurs, même Volodymyr Zelensky le dit, qu'il faudra sans doute céder des territoires.
Aujourd'hui, donc, il y a 20% aujourd'hui, de l'Ukraine qui
presque
est
20%, côté russe. Absolument. Et tous les experts disent que c'est impossible, même avec l'aide de l'Union européenne, qui de toute façon n'est pas en mesure de remplacer les États-Unis, de récupérer ces territoires. Et je pense que même, encore une fois, le président ukrainien en a fait le deuil. Il l'a dit souvent, on n'a pas la force de les récupérer. Mais en revanche, ce qui est important pour lui et pour l'Union européenne, c'est d'avoir un accord avec des garanties de sécurité que pourraient en partie offrir les Européens. Mais parler d'un bras de fer, c'est différent parce que le rapport de force est tellement inéquitable parce que, évidemment, c'est Donald Trump qui incarne la force et pas les Européens.
Mais en même temps, l'Ukraine est sur le sol européen.
Oui.
On pourrait se dire que l'Europe doit avoir la main.
Ah ben, elle devrait avoir la main, mais encore faut-il qu'elle puisse la prendre. Et ce n'est pas le cas parce qu'on reste quand même divisé. Je crains qu'on soit encore plus divisé. Parce qu'on parlait tout à l'heure des succès de l'Union européenne au début, sur les sanctions, les fournitures d'armes, armes et autres, mais je crains que si on s'oriente vers un processus de paix, l'Union européenne soit au contraire de plus en plus divisée.
Mmh. Yves Bertoncini, alors ça effectivement c'est un enjeu très important parce que comment faire face à les États-Unis ? Évidemment, ils avancent d'un bloc, c'est l'administration Trump. L'Union européenne, elle est divisée.
Unie dans la diversité, c'est
alors, c'est le verre à moitié plein.
Mmh, oui, mais l'Union européenne, elle est déterminante, par exemple, pour les sanctions contre la Russie, parce qu'il y a des enjeux commerciaux, de transactions financières, elle en prend. Bon, l'Union européenne, elle est déterminante pour l'aide économique, l'aide financière, l'aide humanitaire. Les Européens ont beaucoup fait sur ces trois registres-là. Elle est moins déterminante en matière militaire, mais parce qu'on ne lui a jamais donné de compétences sur le registre militaire. Oui, il y a eu une facilité européenne pour la paix, qui a d'ailleurs été activée, oui, pour la paix, qui a été activée immédiatement pour permettre de financer des livraisons d'armes létales à l'Ukraine. Ce n'était pas gagné que ça se passe, mais dans une limite de quelques milliards. Il y a eu une initiative pour les munitions qu'a porté Thierry Breton, et on a fini, de manière très laborieuse, à arriver à 2 millions de munitions données aux Ukrainiens. Pour le reste, ce sont essentiellement des décisions nationales. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas si pessimiste, parce qu'il ne faut plus parler de l'Union européenne quand on parle de diplomatico-militaire, il faut parler des Européens. Ça inclut d'ailleurs le Royaume-Uni qui nous a quittés il y a quelques années, c'était bien son droit. Ça inclut les Norvégiens, ça inclut même les Canadiens, parce que les Canadiens ne veulent pas lâcher l'Ukraine. Justin Trudeau était sur place aujourd'hui, comme Trump. Et donc, il suffit, je dirais, qu'il y ait une masse critique d'États européens pour
essayer... On n'est pas obligé d'avoir un accord à 27, ça que vous nous disiez.
Mais on n'aura pas l'accord à 27, c'est pas la peine de le rechercher. Il y a au sein des 27 des affidés de Vladimir Poutine, comme Viktor Orban, comme le Premier ministre slovaque, en attendant que M. Babiš arrive au pouvoir en République tchèque. Et il y a, et c'est aussi important, des neutres. Il faut les respecter. Les Autrichiens sont neutres. Les Irlandais sont neutres. Quand on a livré des armes à l'Ukraine avec de l'argent communautaire, ils se sont abstenus. Abstention constructive, Madame l'ambassadeur connaît bien ce mécanisme. Non, en d'autres termes, pour essayer d'être un peu positif, il suffit que des pays comme l'Allemagne, avec un nouveau chancelier, d'abord la France et le Royaume-Uni, qui sont les deux grands leaders européens, en matière militaire. La Suède a déjà dit qu'elle était d'accord. L'Allemagne, c'est déterminant ce qui vient de se passer aux élections législatives. Parce que, par exemple, le chancelier futur, a priori, M. Merz, a dit que lui, il était d'accord pour livrer des missiles Taurus, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, Olaf Scholz. Donc, il suffit, en d'autres termes, qu'il y ait une masse critique d'Européens pour essayer, en effet, soit de permettre à l'Ukraine de continuer à résister vaillamment à l'invasion russe, ce qu'elle a fait, hein, parce que le bras de fer, il n'est pas perdu. Les Russes n'ont plus gagné de territoire quasiment depuis 2 ans et demi. Hein. Ils ont tout gagné dans le début. Ils contrôlent 18,6% du territoire ukrainien, y compris la Crimée qu'ils avaient déjà en 2014. Ce n'est pas une fantastique victoire militaire. Ils ne contrôlent même pas les 4 oblasts qui sont officiellement russes après le référendum d'appartenance. Ils en contrôlent un seul entièrement, celui de Louhansk. Et donc, en d'autres termes, les Européens, s'ils veulent soit permettre aux Ukrainiens de continuer, soit, et là je rejoins Madame l'ambassadeur, permettre aux Ukrainiens de se contenter d'une forme de conflit gelé sans reconnaître les annexions russes. Il n'y a pas de nécessité. On n'a jamais reconnu l'annexion turque de Chypre du Nord.
Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un accord de paix, s'il y a un cessez-le-feu, on en est où au niveau de la... Non, mais quel territoire russe en Ukraine?
Les lignes actuelles, mais les Ukrainiens, je signale...
Ça veut dire 18, ce que vous avez dit, 18 et 15%.
Sauf que les Ukrainiens occupent une partie du territoire russe, dans la région de Koursk, donc il y aura peut-être une négociation là-dessus, j'en sais rien.
Volodymyr Zelensky est d'accord là-dessus? Les Européens sont d'accord là-dessus?
C'est pour ça que je dis qu'il faut donner à Volodymyr Zelensky la possibilité de dire ce qu'il souhaite faire dans le contexte d'un rapport de force qui, pour lui, devient dégradé, en effet, en raison du lâchage américain. On pouvait s'y attendre. Le lynchage de Zelensky, on pouvait un tout petit peu moins s'y attendre quand même. Et donc, les Européens vont combler une partie du vide à proportion de leur volonté et de leur capacité. Ça suffira sans doute pas à renverser le rapport de force militaire sur le terrain, à reconquérir les territoires perdus, en tout cas à court terme. Mais ça peut effectivement contribuer à sécuriser une sorte de gel du conflit sans nécessité de reconnaître. On n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. Je ne vois pas pourquoi on reconnaîtrait l'annexion par la force de ces 4 oblasts. Non.
Florent Parmentier, vous croyez à cet effort de guerre européen? Emmanuel Macron, il est là-dedans. Il prépare l'opinion française à un effort de guerre. Jusqu'où l'Europe peut aller sur ce plan-là face au lâchage américain, pour reprendre le mot de Bertoncini?
Eh bien, je pense qu'on aura des réponses extrêmement différenciées selon les pays. Et il suffit de regarder les 4 pays qui sont aujourd'hui à la frontière de l'Ukraine, membres de l'Union européenne. La Pologne est prête à faire un effort, elle l'a déjà fait en réalité, et donc n'a pas attendu en quelque sorte maintenant pour se décider. Ce qui néanmoins doit être souligné, c'est que quand le président Duda va à Washington, il est reçu 10 minutes par le président américain, ce qui est en termes du bilan carbone quelque chose finalement d'assez peu convenable, mais en tout cas il y a là quelque chose, un signal qui est bien qu'on peut faire des tweets en disant qu'on a été reçu par Donald Trump, mais je ne pense pas que Donald Trump en ait retenu grand-chose de cette position polonaise. Continuons la frontière. La Hongrie, on connaît la position de M. Orban, elle ne va pas changer. Ouais. La Slovaquie, on connaît la position de M. Fico, elle ne va pas changer. Descendons et prenons la frontière avec la Roumanie. La Roumanie aura des élections les 4 et 18 mai prochains, dont la personne qui est arrivée en tête au premier tour fin novembre
n'est pas favorable.
N'est pas du tout, qui est dans une posture très anti-ukrainienne. C'est-à-dire qu'on va quand même, y compris jusqu'à dire en fait que l'Ukraine occupe des terrains, des territoires roumains après la Seconde Guerre mondiale de manière indue. Donc on n'est même pas dans l'abandon de l'aide, là, pour le coup, on est dans quelque chose.
Vous ne croyez pas à l'effort de guerre qu'évoque Yves Bertoncini?
Sur la Pologne, on peut tout à fait, je pense, donner quitus à la Pologne là-dessus. Je pense que d'autres pays feront des efforts. Je pense que la France fera des efforts, le Royaume-Uni sans doute, l'Allemagne. Mais en tout cas, ce ne seront pas les 27. Il faudra regarder la carte des efforts par rapport au proportionnement des uns et des autres. Mais ce qu'on observe, c'est qu'y compris sur les lignes de front, la perception de la menace et la perception de la réponse à cette menace est assez différenciée. Et donc, on peut penser que... voilà, il y aura un effort partiel. Est-ce que un effort partiel est un effort suffisant? Ça, c'est la vraie question.
Sylvie Berman.
Oui, tout à fait. C'est effectivement la bonne question. Mais il y a le rapport à l'Ukraine, effectivement, le rapport à la Russie, mais il y a le rapport également avec les États-Unis. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont plus profondément atlantistes et qui seront tentés de céder si les Américains disent « voilà, on a un accord et maintenant, les Européens, vous nous dites ce que vous pouvez faire en termes de garantie, parce qu'on a déjà reçu, c'est à l'américaine, des questionnaires ». sur nos capacités militaires, justement sur l'application de ces accords et de ces garanties de sécurité. Mais sinon, il peut menacer comme ils le font assez souvent. Et il y a des interrogations sur certains pays, parce que c'est vrai que le successeur d'Olaf Scholz est beaucoup plus favorable à une aide à l'Ukraine, mais il va lui falloir encore des semaines pour avoir une coalition, et en plus de ça, qui intégrera également les anciens de l'équipe Scholz.
Donc, et là, c'est pas évident. Tout se trame maintenant.
Les Italiens et tout se trame maintenant.
Parce que, donc, les pourparlers entre États-Unis et Russie, Donald Trump veut rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je crois qu'il est un peu tard pour l'Union européenne. Je crois que l'Union européenne devra se mettre en ordre de marche pour la suite et s'armer, c'est même pas se réarmer. Mais je pense que pour l'Ukraine, c'est un peu tard. Le mieux qu'on puisse obtenir, c'est effectivement ces garanties de sécurité pour que la Russie ne puisse pas à nouveau entrer sur le territoire qui restera ukrainien.
Alors, Yves Bertoncini, je vais mettre à mal votre optimisme, mais est-ce que, comme le dit finalement Sylvie Berman, la place des Européens, elle n'est pas dans l'après, après accord de fin de guerre trouvé entre les États-Unis et la Russie, on se projette. Et là, c'est comment sécuriser les frontières ukrainiennes?
Non, mais bien sûr, mais elle est dans le tout de suite, la place des Européens. Encore une fois, ils sont à Kiev, la plupart d'entre eux, sauf Emmanuel Macron, qui joue un autre rôle en ce moment à Washington.
Sur le plan militaire, on va évoquer le diplomatique.
Oui.
Parce que là, vous évoquiez, tous les trois, l'effort de guerre.
Oui.
Jusqu'où peut-il aller aujourd'hui, dans les prochaines semaines? Dans les prochains mois?
Non, mais dans le cas du conflit ukrainien qui dure depuis 3 ans, hein, pour repousser l'invasion russe, revenons à ce terme quand même. Bon, les positions sont figées depuis assez longtemps, il n'y a quasiment plus rien qui bouge. La seule chose qui a bougé récemment, il y a eu un petit grignotage russe, mais minime. Ouais. Et je le répète, les Ukrainiens sont quand même rentrés en Russie, c'est quand même un fait assez notable. Bon, il y aura un gel à peu près sur les lignes, on verra bien ce que feront les Ukrainiens aussi, c'est à eux d'en décider. Les Européens peuvent en effet dire qu'ils sont là, y compris dans le cadre d'une sorte d'accord dans lequel il faudrait fournir des garanties de sécurité. J'ai entendu arriver un concept aujourd'hui de force de réassurance, y compris franco-britannique, voilà. Réassurance, sous-entendu, l'assurance est quand même toujours donnée par les Américains, hein, et nous, on est là en réassurance, y compris avec des troupes qui pourraient, le cas échéant, et il le faudrait à mon sens, être déployées sur le sol. Après, ce que doivent faire surtout les Européens aujourd'hui, je crois que la plupart l'ont compris, c'est se réarmer, y compris pour eux-mêmes. Et ça prend un tout petit peu de temps, hein, de créer une forme de défense européenne articulée ou pas du tout articulée avec celle des États-Unis d'Amérique. Il y a une seule chose qui pourrait être faite dans ce cadre-là tout de suite, en une nuit, c'est de dire que la dissuasion nucléaire française et la dissuasion nucléaire britannique s'étend à d'autres pays que ces deux-là. Mais ça, c'est une décision, c'est du déclaratoire. Il faut un peu redéployer les sous-marins et puis les avions. Mais bon, en revanche, le reste, monter en puissance pour être capable de résister à une agression russe future, alors là, ça prendra des années. Et c'est dans un mouvement long qu'il faut s'inscrire, comme quand on a fait l'euro, hein, d'ailleurs, ça a pris 10 ans. Et ce mouvement, d'ailleurs exactement comme celui qui a conduit à l'euro, n'inclura pas tous les Européens. Les Britanniques n'en ont pas voulu, les Danois non plus. Eh bien, on est avancé. Monsieur Orban, bien sûr qu'il ne sera pas là-dedans, mais on n'a pas eu besoin de lui pour faire face à l'invasion russe de l'Ukraine. Il a d'ailleurs fait obstacle à aucune des décisions de sanctions, alors qu'elles devaient être prises à l'unanimité. On se passera de Monsieur Orban. Les volontaires iront de l'avant, et puis ceux qui ne veulent pas ne feront rien, et puis ceux qui voudront aller à Moscou faire des génuflexions, ils continueront à y aller.
Bon, en tout cas, c'est l'autre enjeu, même s'il est lié évidemment de la défiance américaine, c'est le point que vous soulevez, comment l'Europe assurera sa future sécurité. Évidemment, vous croyez une fin de la guerre proche en Ukraine? Et dans ce cadre-là, que peut faire l'Europe aujourd'hui? On en vient au diplomatique. On voit les images de Emmanuel Macron qui est dans le bureau ovale avec Donald Trump. Il y a ce mini-sommet à Kiev et il y aura d'autres rendez-vous diplomatiques dans les prochains jours. Il y a Keir Starmer, effectivement, le premier ministre britannique, qui va être reçu aussi à Washington.
Madame von der Leyen aussi, tout ça est un peu dispersé.
Quel pion l'Union européenne peut-elle avancer?
Les garanties de sécurité, donc, comme l'après. J'ai dit, le déploiement, l'après. Après, je dis ça très prudemment sous le contrôle de Madame l'ambassadeur, y compris en Russie. Vous croyez que la guerre va s'arrêter? Moi, je crois que Vladimir Poutine est au pouvoir par la guerre, pour la guerre, et qu'il va perpétuer la guerre autant qu'il le pourra et le voudra. Voilà. Donc non, je ne suis pas
optimiste. Dans les prochaines semaines, vous ne croyez pas à un accord de fin de guerre?
Non, mais là, il faut qu'il refasse ses forces, parce qu'il est quand même très, très affaibli. Il faut aussi dire ça. Il a quand même été obligé d'aller chercher des pauvres petits soldats nord-coréens qui se font trouer la peau à des milliers de kilomètres de chez eux. Ce n'est quand même pas très glorieux. En revanche, il peut consommer du soldat. Hein. Il est dans la tête d'une dictature. Il n'y a pas de protestation comme chez nous. Et donc, là, il est affaibli. Il peut faire une pause. Et puis sans doute qu'un jour il recommencera, et d'où l'intérêt que les Américains restent dans le coin. Mais enfin ça, l'administration Trump, elle a été élue sur un agenda isolationniste de retrait, bon, il faut en prendre acte. Et puis d'où, surtout, parce que ça c'est dans nos mains, l'intérêt que les Européens en fassent nettement plus pour leur défense, pour les Ukrainiens à très court terme, mais d'abord pour nous aussi à moyen terme.
L'Ukraine est-elle devenue l'enjeu de la crédibilité européenne? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour avec Yves Bertoncini, Florent Parmentier et Sylvie Berman. Florent Parmentier, comment l'Europe peut-elle tirer son épingle du jeu diplomatique actuellement? Est-ce que l'heure est déjà à l'après? C'est un peu la question clé finalement de notre débat aujourd'hui. Est-ce que l'heure est déjà à l'après? C'est-à-dire on est après la fin de la guerre qui peut arriver très rapidement, puisqu'il y a ces discussions directes entre la Russie et les États-Unis. Et l'après, c'est comment sécuriser les frontières de l'Ukraine avec, évidemment, des États-Unis qui se retirent, et donc une Europe qui doit assurer cette sécurité-là.
Pour penser à l'après, il faut d'abord savoir comment on termine. Parce qu'il y a une alternative qui est tout à fait évidente et qui répond à cette question de la fin de la guerre. Soit Donald Trump, à travers différents moyens, cherche absolument à avoir une forme de paix forcée, dont l'enjeu serait pour lui d'obtenir un prix Nobel de la paix en décembre prochain. Et donc, on peut imaginer qu'il est prêt à mettre un très très grand prix à ça. C'est-à-dire, il faut bien voir que dans les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'Ukraine, c'est un sujet. Mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a le spatial. Et Elon Musk ne rêve que d'une chose en tant qu'homme le plus riche du monde, c'est d'aller sur Mars. Et pour ça, il aura besoin de coopération avec l'un des autres pays du spatial qui est historiquement la Russie. Mais ils discutent aussi des terres rares, ils vont discuter de beaucoup, beaucoup de choses. Donc on peut penser que c'est dans le cadre d'un accord global sur beaucoup de sujets que finalement, on ne mettra pas l'Ukraine sur le chemin d'un rapprochement russo-américain qui serait l'initiative de Donald Trump. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Et que les conséquences pour les Européens de cette paix forcée en Ukraine ne seraient qu'un des éléments. Si toutefois, ils n'arrivent pas à faire une paix forcée, alors ça veut dire autre chose. Ça veut dire, eh bien, tout simplement, qu'il y aura une forme d'abandon des États-Unis. Et l'abandon des États-Unis sur le front, ça peut vouloir signifier beaucoup de choses. Parce qu'il est vrai que le grignotage de la Russie n'est pas très efficace. Mais est-ce qu'on regarde le grignotage en nombre d'hommes? Est-ce qu'on regarde le territoire en territoire? Ou est-ce qu'on le regarde en termes de nombre d'armes? Si on regarde en termes de nombre d'armes, le retrait américain signifie quelque chose. Si on regarde le grignotage en termes de nombre d'hommes, il faut bien observer que la mobilisation en Ukraine n'est plus aussi directe qu'elle pouvait être en 2022, et qu'aujourd'hui, les questions qui se posent, notamment au sein de l'opinion publique ukrainienne, qui ne souhaite pas se rendre, mais qui malgré tout se demandent si, est-ce que vraiment, si on mobilise nos 18-25 ans, et s'ils vont sur le front, est-ce que pour autant on sera sûr de pouvoir mettre fin à la guerre? Et si la réponse est non, alors on peut comprendre qu'il y a des stratégies d'évasion de la part des principaux intéressés. Et donc ça fait partie. Bon. Si on regarde en termes de grignotage territorial, alors oui, c'est vrai que la Russie progresse peu, mais en réalité, s'il y a quelque chose d'exponentiel, à savoir, on sait, vous savez, c'est un peu la métaphore de l'eau qui boue à 100 degrés. Entre 0 et 80, vous ne savez pas à quelle eau est la température. En revanche, à partir de 90, vous commencez à avoir des bulles et la fin, et il est déjà trop tard pour agir, en réalité. On ne sait pas très bien à quelle... Ouais. Mais on sait que l'eau s'est réchauffée.
Sylvie Berman, on va essayer de répondre à la question, parce que, l'Ukraine, c'est en jeu de la crédibilité européenne. Est-ce que l'honneur est sauf côté européen si cet après est géré à la hauteur de ce qui doit être, à savoir sécuriser l'Ukraine pour éviter toute future invasion russe à nouveau? Volodymyr Zelensky avait dit qu'il fallait environ 200 000 hommes.
Mais ça, c'est totalement irréaliste.
L'Europe de la défense, ça fait des années qu'on en parle.
Absolument. Mais à l'époque, puisque moi, je me suis occupée de l'Europe de la défense, l'objectif, c'était 60 000 hommes, ouais. Je me souviens. Mais non, là, qu'est-ce qu'on propose? On en propose 30 000 avec le Royaume-Uni et la France. L'armée allemande a des règles d'engagement qui sont tellement restrictives que c'est très difficile. Et si vous entendez les dirigeants allemands et britanniques, Keir Starmer a insisté là-dessus, je crains que de toute façon, il n'y aille pas sans avoir une garantie d'une protection américaine. C'est ce qu'il a dit. Or, protection américaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des soldats français, anglais, allemands sont tués, ça veut dire qu'on demanderait aux Américains de venir à notre aide. Et ça, depuis le début. D'ailleurs, Joe Biden était clair là-dessus, mais Donald Trump aussi. Donc, ça risque d'être très difficile cette opération. Et encore une fois, moi, je ne crois pas que ce soit possible que ce ne soit que les Européens. Parce que si c'est un accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Poutine ne voudra jamais des soldats de l'OTAN. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des pays un peu plus amicaux, disons, vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire des Indiens, des Chinois, des Turcs, même s'ils sont membres de l'OTAN, ou d'autres pays. Je ne pense pas que ça puisse être les Européens tout seuls.
Et vous croyez un accord Trump-Poutine sans Volodymyr Zelensky, partie prenante, ça concerne son pays,
je pense
sans
que...
les Européens, évidemment.
Non, mais je pense que, de toute façon, ils vont faire l'accord en bilatéral. Ouais. Trump avait dit, sur les accords de Minsk, tous les autres accords, il y avait trop de gens autour de la table, donc
russe.
Ça ne sert à rien. Mais peut-être pas uniquement geler le front russe, encore une fois, il y aurait ces garanties. Mais je pense que les Européens interviendraient dans un deuxième temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas consultés. Ben, d'ailleurs, c'est ce que fait aussi Emmanuel Macron à Washington. Et c'est pareil pour Zelensky, sauf que Trump risque de lui forcer la main.
Hubert Tonchini, on approche de la fin de l'émission. Encore une fois, l'Ukraine, enjeu de la crédibilité européenne. À quel point est-ce que l'Europe a encore son mot à dire aujourd'hui?
Bon, écoutez, elle le dit en Ukraine aujourd'hui, elle le dit via Emmanuel Macron à l'instant même, Donald Trump, elle est libre d'agir, hein, l'Europe, même si un accord est conclu. Ensuite, je rejoins ce qu'a dit Madame l'ambassadeur, les Européens devront à un moment ou à un autre s'engager en Ukraine un peu plus, y compris en mettant des forces d'interposition. Les forces d'interposition, ça peut être aussi sous mandat de l'ONU. J'évoquais l'exemple de Chypre tout à l'heure, j'ai visité la ligne de front à Chypre. Ben, il y a des troupes de l'ONU qui sont là et qui viennent de plein d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Il y en a aussi entre les deux Corées, donc on connaît la façon de gérer ça. C'est vrai que les Européens doivent par définition donner plus, parce que c'est sur notre territoire que tout cela se passe. Alors ensuite, après, sur les réactions de Vladimir Poutine, bon, on parle de l'Ukraine, mais Vladimir Poutine va peut-être aussi nous dire que les troupes de l'OTAN qui sont dans les Pays-Baltes, il faudrait les retirer, parce qu'il y a des Français, on le sait, et qui sont en Estonie notamment. Mais à un moment donné, il faut lui dire non, on ne va pas retirer les troupes du Pays-Baltes, parce que cette grande puissance russe supposée, elle a donc peur, parce qu'il y a un petit peu de soldats français et européens dans les Pays-Baltes. Et pourquoi elle voudrait qu'on les retire ? Parce qu'elle veut prendre le contrôle des Pays-Baltes. Et là, c'est autre chose. Hein. Ils sont dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc, à un moment donné, effectivement, l'épreuve de vérité pour les Européens, c'est qu'ils doivent faire face à la menace russe. Jusqu'ici, ils faisaient face avec l'appui des alliés américains. Il faut quand même essayer de maintenir un appui vers l'arrière de la part de Washington. Donc, ça serait plus efficace.
Donc, pour résumer, on peut craindre un deal entre la Russie et les États-Unis, mais l'Union européenne devra être, pour rester crédible, incontournable sur l'après et la sécurisation, évidemment, du territoire ukrainien, avec la question quelle présence des États-Unis pour l'aider, parce qu'évidemment, seule, elle n'y parviendra pas. Merci beaucoup à vous trois, Hubert Tonchini, Florent Parmentier et Sylvie Berman, pour ce débat du jour. Merci à Hélène Avril, qui était à la réalisation, et Florence Ponce à la préparation. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir sur RFI. Puis juste après, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Rendez-vous dans 30 minutes. Le programme, déjà le Rwanda dans le collimateur de l'UE pour son soutien au M23 dans son offensive dans l'est de la RDC.
Oui, absolument. L'UE prête à sanctionner Kigali. Hein, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles préparent en ce moment de premières sanctions contre Kigali.
En RDC, Joseph Kabila qui sort de son silence.
Eh oui, dans une tribune publiée dans un journal sud-africain, l'ancien président congolais critique la gestion de son successeur, Félix Tshisekedi, et affirme que la solution de la crise actuelle à la crise actuelle marquée par l'avancée du M23 soutenue par Kigali ne peut être militaire. Cette prise de parole est loin d'être un acte isolé, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large.
Eh bien merci Zéphirin Quadio, on vous retrouve dans 30 minutes, dans 30 secondes, c'est Adrien Delgrange pour le grand